إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons cette série de cours dans laquelle nous nous rappelons quelles sont les provisions utiles à l'adorateur. Des provisions que nous nous devons de prendre ici-bas et dont on profitera, inshallah ta'ala, des récompenses dans l'au-delà. Comme cela a été annoncé, nous allons parler aujourd'hui, inshallah ta'ala, de l'œuvre la plus aimée d'Allah. Et il n'y a pas de doute que ceci est une chose recherchée par l'adorateur. Il cherche à savoir quelles sont les œuvres les plus méritoires, quelles sont les œuvres aux plus grandes récompenses, quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif en cela est de les connaître afin de pouvoir les mettre en pratique et se rapprocher ainsi de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on parle des œuvres les plus aimées d'Allah, il se peut que certains s'imaginent que ceci demande de grands efforts à fournir dans l'adoration, ou autre chose qui peut paraître insurmontable pour une personne ordinaire. Pourtant, il faut savoir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, ce n'est pas un objectif que tu ne peux pas atteindre. Au contraire, c'est une chose qui est accessible à chacun d'entre nous et qui ne demande pas de grands efforts insurmontables. Donc tout d'abord, d'un point de vue général, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus de nous, ce sont les choses qu'il nous a prescrites. Comme il le dit lui-même subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi, le hadith divin, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, certes mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que je n'aime plus que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire les œuvres obligatoires. Donc d'un point de vue général, les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les œuvres que l'adorateur accomplit, ce sont les œuvres obligatoires. À titre d'exemple, en ce qui concerne la prière, les prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, ce sont les 5 prières obligatoires. En ce qui concerne l'aumône, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus parmi les aumônes, ce sont les aumônes obligatoires, la zakat, zakat al-mal, zakat al-fitr, et ainsi de suite. En ce qui concerne le jeûne, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est le jeûne obligatoire, comme le jeûne du mois de Ramadan, et ainsi de suite avec l'ensemble des œuvres. Ce qui est obligatoire est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est recommandé parmi les œuvres surérogatoires. Et d'un point de vue particulier, il y a des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime plus que d'autres. Et c'est de l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons parler ici. Et celle-ci nous a été mentionnée dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Comme on a vu dans des cours précédents, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'ils posaient des questions, ce n'étaient pas des questions futiles, ce n'étaient pas des questions subsidiaires, mais c'était des questions qui les aidaient à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel doit être le musulman lorsqu'il pose des questions. Il doit poser une question de laquelle il va tirer un profit pour sa religion, de laquelle il va tirer un profit pour l'aider à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Donc Abdullah ibn Mas'ud ici, radiyallahu ta'ala anhu, il demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et écoutez ce que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, la prière en son temps. La prière en son temps. Une adoration immense que tu accomplis quotidiennement et que tu ne dois en aucun cas négliger. Accomplir tes 5 prières obligatoires en leur temps, ceci est l'œuvre la plus aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose qui est obligatoire, et qu'il ne nous est pas permis d'enfreindre. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » et la prière demeure pour les croyants une prescription, une obligation, à des temps déterminés. Chaque prière a son temps. Il t'incombe donc d'accomplir chacune de tes prières obligatoires en son temps. Al-Fajr en son temps. الظهر en son temps, العصر en son temps, المغرب en son temps, et العشاء en son temps. Et si tu fais cela, tu te seras premièrement soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Mais en plus de cela, tu auras accompli l'œuvre la plus aimée de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit d'accomplir la prière en son temps, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie qu'à la minute où entre la prière d'El Fajr, tu dois t'empresser de prier? Ou bien comment dois-tu accomplir cette prière afin de l'accomplir en son temps? Accomplir sa prière en son temps, cela signifie que dès que l'heure de la prière entre, dès qu'entre la prière d'El Fajr, dès qu'entre le temps de la prière d'Dhuhr, dès qu'entre le temps de la prière de l'Asr, ainsi de suite, tu te dois d'accomplir ce qui est nécessaire pour accomplir cette prière. C'est-à-dire qu'une fois que le temps de la prière est entré, tu accomplis tes ablutions et tu te prépares pour accomplir cette prière obligatoire en son temps. Et ce qui est recommandé pour les prières de manière générale, c'est de les accomplir dès le début de leur temps. À l'exception de Salat al-Isha, pour laquelle il est recommandé pour celui qui en a les capacités et à qui cela n'impose aucune gêne de la retarder jusqu'au premier tiers de la nuit. Et ceci est recommandé, mais cela n'est pas une obligation. L'essentiel est que tu accomplisses chacune de tes prières en leur temps. Et il ne convient pas aux croyants de négliger cette prière, ou alors de négliger son accomplissement en son temps, comme le font malheureusement bon nombre de personnes aujourd'hui sous divers prétextes. On trouve des personnes qui vont retarder leur prière, pourquoi? À cause du travail. D'autres qui vont retarder leur prière à cause des études. Et ainsi de suite. Et ils accomplissent leur prière en dehors de leur temps, Wallah al-Musta'an. Certains accomplissent le dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha le soir en rentrant chez eux, en les accomplissant toutes d'un coup. Et en plus du fait que ceci n'est pas légiféré, et qu'il y a en cela une grave transgression de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Ceci est en réalité une charge que la personne s'impose. En devant prier toutes ses prières d'un coup, il se peut que ceci la conduise petit à petit à complètement délaisser la prière, wal'iyadu billah. Et il ne faut aucun doute que ceci est un grave péché duquel le serviteur doit s'empresser de se repentir. Car comme on l'a mentionné dans des cours précédents, la prière, c'est le pilier le plus important de l'islam après les deux attestations de foi. C'est le pilier de la religion comme il est venu dans les hadiths. C'est le lien entre l'adorateur et son Seigneur. Et c'est la première chose sur laquelle tu seras interrogé au jour de la résurrection. Si elle est accomplie convenablement, l'homme aura alors réussi et obtenu le succès. Mais si elle est mauvaise, alors il aura certes perdu et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc ceci est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un encouragement et en même temps une menace, afin que le croyant accomplisse ses prières comme il se doit, en respectant ses conditions, en respectant ses piliers, en respectant ses obligations. Et parmi les plus grandes conditions de la prière, il y a le fait de l'accomplir en son temps, comme on l'a vu dans le verset. De plus, tu dois te rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, ce qui sépare l'homme du polythéisme ou de la mécréance, c'est la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, d'après Burayda radiyallahu ta'ala anhu, le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. C'est-à-dire que celui qui la délaisse, il tombe dans la mécréance. Et Shaqiq ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, un noble disciple des compagnons, a dit: les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne considéraient le délaissement d'aucune œuvre comme de la mécréance, si ce n'est le délaissement de la prière. Donc tout ceci te démontre le danger du délaissement de la prière. C'est-à-dire que si tu négliges cette prière et que tu la délaisses, alors tu risques de sortir de la religion de l'islam, wal'iyadu billah. Tu es donc en grand danger. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et celui qui ne prie pas, qui délaisse totalement ses prières, alors celui-ci on ne le marie pas, on ne mange pas de ses sacrifices, et s'il meurt ainsi, s'il meurt dans cette situation, alors on ne le lave pas, on ne fait pas la prière sur lui, et on n'enterre pas avec les musulmans. Tout ceci doit te faire prendre conscience de la gravité du délaissement de la prière, que ce n'est pas une chose que tu dois prendre à la légère, et considérer que ceci est un péché insignifiant et que si tu la manques ou que tu ne la fais pas en ce temps, ceci est quelque chose sans gravité. Au contraire, c'est un très grave péché, un péché qui peut te conduire à la mécréance, wal'iyadu billah. Il incombe donc à chaque personne, à chaque musulman, d'être assidu à ses prières, en les accomplissant toutes et en les faisant toutes dans leur temps. Et ainsi tu te seras soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre, Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Soyez assidus aux prières, et surtout la prière médiane, c'est-à-dire la prière de l'Asr, et tenez-vous devant Allah avec humilité. Il est donc impératif pour le musulman d'être assidu à ses prières. Et ceci, il n'y a pas de doute que c'est une des plus grandes provisions desquelles tu ne peux pas te passer. Et comme on a dit, ces prières, tu ne dois pas les accomplir en pensant que ceci est une charge de laquelle tu dois te débarrasser. Mais tu dois rechercher le plaisir dans celle-ci. Car c'est dans cette prière que tu trouveras le bonheur, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et tu dois te rappeler également les grands mérites qu'il se trouve dans l'accomplissement des prières, comme ceux que l'on a déjà mentionnés dans un cours précédent. Le fait qu'accomplir la prière est une cause qui va te préserver de la turpitude et du blâmable. C'est une cause pour effacer tes péchés, pour t'élever en degré au paradis. Et celles-ci également ce sont une lumière. Et il y a des mérites plus particuliers qui ont été rapportés sur les prières. Et notamment, la prière du Fajr et la prière de l'Asr. Parmi ces hadiths, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit les deux prières de la fraîcheur entrera au paradis. Quelles sont ces deux prières? Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit, les prières de la fraîcheur sont celles de l'aube, la prière del Fajr, et celle de l'après-midi, la prière de l'Asr. Celui qui a accompli ces deux prières entrera au paradis. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui prie avant le lever du soleil et avant son coucher n'entrera pas en enfer. Et ces deux prières qui sont visées, ce sont la prière de l'aube, al-fajr, et la prière de l'après-midi, salat al-asr. Donc ces deux hadiths, ils te montrent que ces prières, c'est par celles-ci que tu vas entrer au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Elles font partie des plus grandes causes pour que tu entres au paradis et que tu sois préservé du feu de l'enfer. Donc en ayant connaissance de cela, comment une personne, à l'heure de la prière du Fajr, peut se complaire dans son sommeil et délaisser volontairement cette prière? Il n'y a pas de doute que celle-ci se prive elle-même d'un bien immense et se jette de ses propres mains dans la perdition. Lorsque vient le moment du Fajr, tu dois te rappeler que cette prière fait partie des plus grandes causes pour que tu entres au paradis et pour que tu sois préservé du feu de l'enfer. Et également la prière de l'Asr, cette prière qui vient à un moment où beaucoup de gens sont pris dans leurs occupations, certains dans des choses nécessaires et d'autres dans des futilités ou pire dans des choses interdites, qui peuvent les distraire de l'accomplissement de cette prière. Donc le musulman, il doit se rappeler de ses mérites. Comme on a dit toujours, revoir ses priorités et s'empresser d'être assidu à ses prières, les cinq prières quotidiennes et notamment la prière du Fajr et la prière de l'Asr, pour ce qu'elle comporte comme particularité. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Jundab ibn Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit la prière du Fajr est sous la protection d'Allah. Si tu accomplis la prière du Fajr, tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nombre de personnes se plaignent d'être touchées ou d'être atteintes par certains méfaits, comme par exemple le mauvais œil, la sorcellerie et les épreuves par lesquelles l'homme peut être touché ici-bas. Et ils ne vont pas forcément chercher la solution à ces problèmes là où il doit être cherché. La première chose vers laquelle ton regard doit se porter lorsque tu es éprouvé, c'est de faire un bilan avec toi-même, de te remettre en question. Quelle est ma situation vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'accomplis mes devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Et notamment en ce qui concerne ces cinq prières. Est-ce que j'accomplis ces cinq prières comme il se doit? Et est-ce que j'accomplis ces cinq prières en leur temps qui est légiféré? Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa propre personne. Donc si tu veux la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux entrer dans son paradis, si tu veux être préservé du feu de l'enfer, tu te dois d'être assidu à tes prières. Et tu dois savoir que si tu négliges ces prières, alors tu t'es écarté de la voie droite menant à l'agrément et à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois donc te corriger, revenir à la droiture et faire preuve d'assiduité dans tes prières en les accomplissant en leur temps. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors qu'il regardait la pleine lune, « Vous verrez votre Seigneur de la même manière que vous voyez à présent la lune, sans que vous n'ayez du mal à le voir. » Ainsi, si vous êtes capable de ne pas manquer une prière avant le lever du soleil et une prière avant son coucher, alors faites-le. Et ce qui est visé par ces deux prières, ce sont la prière d'Al-Asr et la prière du Fajr. Donc le musulman, il doit savoir que le fait d'accomplir ces deux prières en leur temps sont une cause qui lui permettront d'atteindre le plus grand des délices que le serviteur peut trouver au paradis et qui est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ » Et pour ceux qui auraient été bienfaisants, il y aura la meilleure des récompenses, qui est le paradis, et un ajout à cela. Les savants du tafsir ont dit, et cet ajout c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grand des bienfaits dont jouiront les gens du paradis. Et parmi les causes pour obtenir ce bienfait, il y a le fait que tu sois assidu à tes prières, et notamment la prière du Fajr et la prière de l'Asr. Et sache que la négligence de ces prières, comme on a dit, elle peut mener à la mécréance, wal'iyadu billah. Et elle peut mener à l'annulation de l'ensemble de tes œuvres. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Buraïda, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque délaisse la prière de l'Asr, alors ses œuvres seront vaines. L'ensemble de ses œuvres, elles seront annulées. C'est-à-dire s'il délaisse la prière de l'Asr en son temps, et qu'il la fait sortir volontairement de son temps, alors ses œuvres seront annulées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela rejoint ce que l'on a mentionné dans les hadiths précédents. Cela signifie qu'il est tombé dans la mécréance, wal'iyadu billah. Car ce qui annule l'ensemble des œuvres, ce n'est que le polythéisme et la mécréance. Ceci est donc une menace sévère pour ceux qui négligent leur prière en leur temps, qui se privent ainsi des bienfaits de cette prière et de ce nombreux mérite, et que se détournent ainsi de leurs propres mains et de leur plein gré de la voie du paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses serviteurs croyants. Comme on a dit, le musulman, il doit se remettre en question. Revoir quelles sont ses priorités dans sa vie et se rappeler qu'il ne sera pas éternellement sur terre, mais que cette vie a un terme et que prochainement elle prendra fin. Une fois qu'elle sera terminée, tu seras sous terre et tu n'auras avec toi que tes œuvres. Ta famille et tes biens te délaisseront, comme il est venu dans le hadith. L'homme, lorsqu'il meurt, il est suivi par trois choses. Deux s'en vont, une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent. Sa famille et ses biens s'en vont, et ses œuvres restent avec lui. Donc tous ces biens qui peuvent te distraire dans ce bas monde, et par lesquels tu es préoccupé, que tu cherches à amasser, que tu cherches à réunir, en cherchant parfois à t'enrichir, à vouloir construire ceci et cela, à vouloir obtenir ceci et cela, et ainsi de suite, tout ceci, ils te délaisseront une fois que tu seras dans ta tombe. Mais les seules choses qui seront avec toi, c'est quoi? Ce sont tes œuvres, celles que tu as accomplies pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc te rappeler que tu es ici-bas pour prendre tes provisions, que tu n'es que dans un lieu de passage, et qu'une fois que tu seras sorti de ce bas monde, cela sera soit le paradis, soit l'enfer, et il n'y aura pas d'autre destination. Au jour de la résurrection, les gens seront séparés en deux groupes, les gens du paradis et les gens de l'enfer. Choisis donc dès maintenant, de ton vivant, de quel groupe tu souhaites faire partie. Est-ce que tu souhaites faire partie des gens du paradis, ou bien des gens de l'enfer? Et si tu souhaites faire partie des gens du paradis, alors sache que la plus grande chose qui t'incombe, après les deux attestations de foi, après la concrétisation du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'accomplissement de tes cinq prières obligatoires en leur temps. Et si tu accomplis cela, tu auras alors accompli l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être assidus à nos prières. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.